Pakile Joseph Felemou, vous êtes un résistant. Un résistant contre le fléau du sida, résistant contre un visage trop condescendant vis-à-vis de l'Afrique. Vous avez derrière vous tout un parcours qui comprend aussi la communauté Sant'Egidio. Comment est-ce que vous êtes arrivé là ?
Je dirais rapidement que sur le plan historique, j'étudiais à Alger et de là, j'ai participé à un pèlerinage diocésain. Et je suis venu parmi les pèlerins, étudiants pèlerins d'Afrique noire à Rome. À cette occasion, j'ai découvert la communauté de Sant'Egidio. Qu'est-ce qui m'a frappé ? D'abord, à Sant'Egidio, je suis rentré dans une salle, la première salle qui m'a accueilli, où je vois tout au mur plusieurs images de personnes, les gens de toutes les conditions, les pauvres, les riches, des images de mariage, des images de malades, mais une parole écrite tout le long du mur, les quatre murs, qui dit « C'est avec tout ceci que nous faisons le monde ». Et ça, j'ai été tout de suite touché. Moi aussi, je fais partie de ce monde. Je dirais, mon premier choc avec Sant'Egidio a été ainsi. Mais aussi, la présentation de la salle de prière de Sant'Egidio, le Christ au mur sans bras, et le père Matteo Zuppi me dit, en expliquant, « Voici le Christ qui n'a pas de bras, c'est nous qui sommes ses bras ». C'est nous qui sommes sa défense. Le Christ est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Il est cette personne pauvre, cet étranger, ce malade qui n'a pas de soutien. C'est nous qui sommes ses soutiens. Et je dois dire que ça m'a touché. Les jours qui ont suivi, nous avons participé à plusieurs choses parmi lesquelles on a accompagné les enfants, nous avons fait une sortie avec les enfants, nous avons fait rencontrer les personnes âgées. Et tout cela, je suis retourné du pèlerinage avec une décision. Est-ce que je peux vivre cette expérience en Guinée ? Je me suis dit pourquoi pas. Donc, depuis ce jour, nous sommes le 1er juillet 1989. Je suis parti avec cette image-là de la communauté de Sant'Egidio. Une fois les études terminées, je suis en Guinée en 1991. Je rencontre l'archevêque de Conakry, à l'époque c'était Monseigneur Robert Sarah, j'en parle, il est tout de suite content et après avoir rencontré la communauté mère de Rome, il nous donne sa bénédiction et nous sommes lancés à Conakry pour la communauté de Sant'Egidio. Et donc, nous avons commencé notre premier service par les enfants.
Qu'est-ce que vous avez commencé avec les enfants ?
Alors, leur montrer à lire, à écrire, parce que c'est un besoin essentiel de la vie, savoir avoir l'instruction. Nous avons dit que la première chose à donner aux enfants en Guinée, c'est de les apprendre à lire, à écrire. Et nous avons choisi un quartier où il n'y avait pas d'école. Nous étions 4 à commencer la communauté. Aujourd'hui, nous sommes 1200 environ. Et donc, à partir de ce jour, nous avons commencé à aller saluer les enfants, les apprendre à lire, à écrire, visiter leur famille, parler avec leurs parents et tout un service est parti parce que l'école de la paix est l'un des moyens que la communauté a trouvé pour rendre le maximum de services à l'enfance en Afrique.
Quand vous êtes retourné à Conakry, la première chose que vous avez faite, c'est de fonder une école de la paix.
Après la prière, parce que notre première rencontre a été d'expliquer les gens que j'ai rencontrés, ce sont des anciens amis que j'avais trouvés au lycée, que j'ai rencontrés. Je leur ai expliqué le fruit de mon pèlerinage et expliqué ceci. On est tous d'accord à 4, nous sommes partis pour la prière. Et après la prière, qu'est-ce qu'il faut joindre à la prière ? Et c'est une coïncidence extraordinaire parce qu'aujourd'hui, le synode que je suis en train de suivre dit l'Église famille en Afrique, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Il se trouve que le premier passage de notre rencontre en 89 était Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On s'est dit, mais comment on peut être lumière ? On a dit, d'abord, soyons lumière pour les enfants. Soyons sel pour ces enfants. L'école de la paix n'est pas seulement pour l'instruction, apprendre à lire, à écrire. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent à l'école de la paix, qui n'ont pas mangé ou qui mangent une fois par jour.
Petit à petit, j'imagine que vous avez été orienté sur le domaine de la santé. Et vous avez rencontré un fléau.
Le VIH-Sida. Le VIH-Sida, l'histoire parle du Mozambique. Après 16 ans de guerre au Mozambique, qui a fait 1 million de morts, environ 4 millions de déplacés, la communauté s'est rendue compte que la guerre n'était pas finie au Mozambique. Parce que après la guerre, la communauté n'est pas partie tout de suite, est restée à assister pour affermir la paix obtenue, mais on constate qu'il y a trop de malades, que les jeunes meurent trop. Et vérifiant, Santé-Dieu découvre que la cause, c'est le VIH-Sida. C'est ainsi que naissait un programme pour l'Afrique de la prévention et du traitement du VIH-Sida. Au Mozambique, nous sommes en 2001-2002.
Un programme de prévention qui s'appelle donc DREAM.
DREAM.
Pourquoi ?
C'est le rêve que les Africains aient droit aux mêmes soins qu'en Europe. Parce que le VIH-Sida, dans les années maintenant 2002, il y avait déjà un traitement en Europe. Et à l'Afrique, on proposait un programme minimaliste. Et nous nous sommes aperçus que la prévention, oui, c'est le maître parole de la médecine, la prévention. Vaut mieux prévenir que guérir. Mais nous avons pris le fléau, le VIH, en chemin. Ce n'était pas qu'il était en train de rentrer en Afrique, il était déjà installé. Donc, il fallait aussi s'occuper de ceux qui sont infectés. Et nous avons d'ailleurs découvert que la thérapie contre le VIH-Sida a en lui-même un pouvoir de prévention extraordinaire. Parce que lorsque les gens découvrent qu'après le test, après leur avoir annoncé qu'ils sont séropositifs, ils sont pris en charge, il y a quelque chose à faire, alors tout le monde a le courage de se montrer, de dire « je vais faire mon test parce qu'on va me sauver ».
Donc vous avez mis en place ce programme de prévention.
Ce programme de prévention et de traitement né au Mozambique est arrivé en Guinée en 2006 et c'est parti le 13 mars 2006, l'ouverture du premier centre DREAM à Conakry. Aujourd'hui, nous avons deux centres.
Ça a démarré il y a donc 3 ans et aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous avons un peu plus que 2500 patients pris en charge dans le programme avec 400 enfants nés du programme de prévention de la transmission mère et enfant. Sur les 400, il n'y a que 6 enfants qui sont nés positifs. Donc, les 394 sont négatifs.
Et donc, ils sont sauvés.
Ils sont sauvés.
Pakil et Joseph Félémou, vous êtes au synode. Qu'est-ce que vous attendez du synode?
Le synode est une bénédiction pour moi personnellement, pour la communauté de Saint-Dieu, mais pour l'Afrique. Parce que c'est comme un retrait pour regarder le champ. C'est comme l'Afrique se retirait à Rome pour regarder là-dessus et découvrir que l'Afrique n'est pas toujours malade, comme on dit, n'est pas toujours obscure. Hier, dans les débats, il ressortait qu'aujourd'hui, sur le plan de la paix, il y a plus de paix en Afrique qu'en Asie. Il y a beaucoup de choses positives en Afrique qu'on ne parle pas.
Donnez-nous des exemples.
Comme on parlait du sida, de la lutte contre le sida, il y a beaucoup d'ONG qui lutte, dont Saint-Dieu à la tête. Saint-Dieu a 80 000 patients en Afrique, avec 8 000 naissances sans le VIH-Sida. C'est un progrès extraordinaire en Afrique. Mais l'autre chose extraordinaire est qu'il y a de plus en plus de jeunes en Afrique qui prennent conscience de leur présence en Afrique. Dans la communauté, nous sommes en contact avec 15 000 jeunes qui sont engagés dans tous les secteurs du continent. Quand vous voyez sur la naissance de diocèse, de nouveaux diocèses, la croissance des paroisses, les statistiques montrent que par rapport il y a 10 ans, 15 ans en arrière, l'Afrique a progressé sur le domaine de la foi, a progressé dans l'instauration de la paix. Donc, il reste encore des choses en Afrique. Mais l'image n'est pas aussi obscurcie comme on le présente.
Et donc, ce synode est une bénédiction parce que déjà, il y a une prise de conscience.
Il y a une prise de conscience, mais aussi, c'est une des assemblées que je trouve que les pasteurs de l'Église en Afrique ouvrent vraiment la bouche, parlent clairement, dénoncent les faits. Nous avons beaucoup d'espérance que les décisions, les documents qui vont naître de ce synode vont permettre au continent africain, aux évêques d'Afrique, non seulement de repartir avec la communication de l'Évangile, mais aussi d'être davantage plus vigilants sur les paramètres de la paix. Je dis que l'avenir de l'Afrique dépend à 80% de la stabilité, de la paix en Afrique. Et je proposerai aujourd'hui aux Nations Unies ou à l'Union africaine de considérer la paix comme un bien-être universel, comme un bien-être continental qui dépasse la souveraineté nationale.
Quelles sont les potentialités, les capacités, les forces spirituelles en jeu aujourd'hui en Afrique?
La plus grande force que l'Afrique a, c'est sa ressource humaine. Les jeunes en Afrique sont enthousiastes. Et le synode, justement, en revenant sur ça, a comme un des objectifs de recueillir cet enthousiasme des jeunes Africains. Les potentialités, le premier, c'est la ressource humaine de l'Afrique.
C'est-à-dire les Africains eux-mêmes.
Les Africains eux-mêmes. Mais aussi, l'autre potentialité, ce sont les amis de l'Afrique dans le monde. Le contentieux colonial, aujourd'hui, est dépassé. Dans ce synode, aucun évêque ne s'est arrêté sur le contentieux colonial. On évoque, on dit, mais la responsabilité aujourd'hui est à l'Africain, aux Africains, d'aller de l'avant.